la rubrique culturelle L'air de rien, présentée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui de photographie, mais pas que, parce que j'ai le plaisir d'avoir avec moi Patrice Loubon. Bonjour Patrice.
Bonjour Sylviane.
Le fondateur, président, artiste, directeur artistique de NECPOS.
Oui, voilà. NECPOS qui veut dire négatif positif en abrégé.
Voilà. Alors, NECPOS a 30 ans.
Quasi.
Ouais. Vous un peu plus.
Oui, la moitié, le double.
Double. Et c'est une passion pour vous, ce NECPOS. C'est votre bébé, c'est votre création.
Oui, disons que c'est un tanguy plutôt, là. Que je n'ai pas vu grandir et puis qui est là, et ouais, est toujours là. Et ouais, j'aimerais bien qu'à un moment donné, trouver une suite aussi et des personnes nouvelles qui, voilà, qui s'en occupent.
Alors surtout qu'en 2025, vous avez subi un gros, gros coup sur la tête, hein, le saccage de l'exposition Benzine Cyprine. Ouais. Ça a dû être très difficile pour vous.
Oui, ça a été d'une violence extrême quoi, pour nous. Quelque chose, un acte absolument complètement inattendu en plus. NECPOS, pour moi, c'était un espace de liberté. C'était un lieu où on pouvait voilà, se permettre des choses expérimentales et puis des expositions sans contrainte, je dirais. Bon, tout en gardant évidemment certaines limites, bien sûr. Mmh. Quoi. Mais voilà, là, apparemment, il y a des gens qui n'ont pas toléré.
Donc, c'était tagué, ça a été saccagé.
Oui, voilà. L'exposition a été détruite. On a fait la une de Libération en juillet dernier. Toute la presse nationale en a parlé, du Figaro à Télérama, en passant par Le Monde, etc. J'avais jamais vécu ça non plus, parce que c'était un vrai harcèlement médiatique, là, et j'étais vraiment flippé, quoi, pendant.
Et on sait qui
malheureusement,
fait.
Alors nous, on a des sérieux doutes, mais bon, vu qu'il n'y a pas de preuves et que la police ne fait pas son travail d'enquête, j'irai convenablement, quoi. La personne qu'on a, on va dire, désignée, nous, avec deux plaintes, quand même, n'a pas été convoquée, par exemple, ni auditionnée. Bon, ça fait un an, hein.
Ouais.
Donc du coup, on est un peu, voilà, dans cette espèce de limbo... sans savoir exactement. Et puis cette personne doit s'estimer satisfaite.
Ouais.
C'est-à-dire qu'elle a fait un acte qui lui convenait et elle n'a pas été ensuite poursuivie.
Mais vous avez très très défendu. Hein. C'est-à-dire que sur Nîmes, hein, vous êtes un pur Nîmois, vous faites NECPOS depuis 30 ans. Il y a eu vraiment une vague d'émotions. Quoi, hein, donc. Et puis de peur, parce que c'est vraiment les extrémismes maintenant qui se permettent tout.
Ça déferle de tous les côtés en ce moment et... Voilà, alors sans évoquer d'autres époques, mais c'est vrai que c'est quand même très très inquiétant tout ça, quoi.
Alors c'est pour ça que nous avons intitulé cette émission La Renaissance de NECPOS, hein, parce que vous auriez pu, c'est vrai, un peu abandonner. Le découragement s'est installé.
Ouais.
Il y a toujours, comme toute association, ben, les problèmes financiers, problèmes administratifs. Vous êtes une trentaine sur Nîmes à peu près à gérer ça.
Ouais.
Vous accueillez des stagiaires, des services civiques, vous faites appel à des bénévoles.
Oui, hein. Oui, on a aussi 3 salariés actuellement quand même.
Quand même, oui. Donc... Ouais. Et puis, vous faites partie, au niveau international, de 70, on va dire, comment, photographes,
alors on a des...
agences.
Oui, on a des contacts, effectivement, en Afrique, en Amérique latine, en Europe. Et on travaille beaucoup en Asie aussi. On travaille beaucoup avec voilà, des groupes de photographes en fonction des pays. Et puis, on est lié aussi au niveau national à 2 réseaux qui sont Peuple et Culture, qui est un vieux réseau qui est né de la résistance française... dans la résistance, dans les massifs du Vercors, et le réseau Lux, qui est un très jeune réseau, qui est là plus sur les festivals de photographie, qui a été créé par Marion Islin et Sylvie Hugues, qui sont deux grandes dames de la photographie en France, et dont Marion a été déléguée à la photographie au ministère de la Culture. Mmh. Et elle défend bec et ongle notre cause aux photographes et aux structures.
Alors pour vous, Patrice, la photographie, ça a été une évidence, hein, je veux dire, tout jeune.
Oui, par mon père, parce qu'il m'a calé un petit appareil photo, un Kodak Instamatix 155X, je m'en rappelle très bien.
Vous l'avez gardé ?
Non.
Non.
Je ne sais plus, plus où il est passé, mais c'est vrai que c'est, voilà, c'est lui aussi faisait beaucoup de photos de ce cinéma Super 8 amateur. Donc voilà, ça a été un peu évident, et puis quand il a fallu choisir... une profession, un métier. étant donné qu'il est mort assez jeune, quoi, il avait 53 ans, j'avais 16 ans, donc je pense que c'est aussi pour perpétuer cette...
Sa mémoire, déjà.
Ouais, sa mémoire, et puis oui, voilà, avoir une sorte de lien avec lui, malgré sa disparition.
Alors, on parlait justement de transmission, mais vous avez un fil rouge, parce que c'est pas que de la photographie, c'est... le fil rouge, c'est regard sur la ville, en fait.
Oui, c'est une mission qu'on a lancée avec Bernard Bouillet au début de NECPOS. Bernard Bouillet, qui est un des fondateurs, et Marie Vaname, qui était une grande journaliste nimoise, qui a été rédactrice en chef adjointe de Calade, le magazine, à l'époque. Et du coup, voilà, on a créé NECPOS. Et puis on a aussi, avec Bernard, imaginé cette mission. Et puis voilà, lui, il a lâché l'affaire rapidement. Et puis après, moi, je l'ai perpétué avec NECPOS au fil du temps. Et c'est un travail... je dirais collectif, qui permet chaque année, plus ou moins il y a eu quelques trous, mais de documenter sur, sur notre espace commun, cette urbanité nimoise, au-delà même des frontières de l'enceinte, je dirais historique, voire même périphérique. On travaille aussi à l'échelle de métropole, quoi, avec des...
Oui, vous avez plusieurs lieux qui changent.
Oui,
et vous faites
tout
de même une bonne dizaine d'expositions par an, donc sur plusieurs lieux.
Oui, même plus, parce qu'on a...
10-15.
Voilà, Donc, et puis même des fois plus, parce qu'il y a aussi des expositions qui se tiennent ailleurs.
Voilà.
Là, on va participer, par exemple, à la grande exposition de luxe, donc à Paris, qui va se dérouler à Créteil, exactement, en septembre. Voilà.
Pour ceux qui ne le savent pas, mais ça m'étonnerait tout de même, vous êtes au Cournot-Meuzus.
Et oui, Jean Nouvel, une architecture que moi j'adore, et je remercie grandement Jean Nouvel de nous avoir doté de cet édifice, parce que c'est un fleuron, quoi, d'une architecture pionnière et expérimentale et utopique, et qui mériterait mieux que ce qu'elle subit actuellement, c'est-à-dire une sorte d'abandon. C'est vrai que le bailleur n'est pas très, on va dire...
efficace.
Ouais. On est dans une proche périphérie, mais bon, quand même en périphérie, dans un quartier aussi politique de la ville, donc il y a des phénomènes qui existent dans les autres quartiers, le narcotrafic, etc. Et c'est vrai que ça pèse un peu sur cette belle réalisation architecturale qui est très visitée quand même par des groupes d'architectes. Moi, j'accueille quasiment toute l'année des groupes.
Il faut aller voir vraiment. Vous êtes ouvert si on veut venir vous voir, ou c'est ouvert?
Oui, alors du lundi au vendredi de 13 à 18, on essaie de garantir ce créneau. C'est vrai que, vu qu'on est un peu en ce moment en sous-effectif sur certains pôles, et notamment accueil, il vaut mieux quand même appeler.
Avant.
Voilà, il vaut mieux quand même appeler. Puis c'est pas un lieu auquel on passe pas, quoi. On y va, quoi.
Voilà, en fait, on veut savoir. Oui. On peut aller sur votre site, necpos.fr.
Oui.
Et puis surtout, aller voir les expositions. Et puis, vous avez une revue aussi?
Oui, Photoloft, qui est éponyme de la galerie, 15 ans maintenant,
15 ans.
Et qui, du coup, la galerie s'appelle NECPOS Photoloft, et du coup, la revue s'appelle Photoloft, en référence à la galerie, et propose une vitrine aussi de contenu, d'exposition, de travaux photographiques. Elle en est à son 27e numéro, le 28e numéro va sortir en octobre. C'est une revue qui a son histoire, et que les Nîmois apprécient. Je crois souvent des gens qui me disent elle est belle et tout, on la garde, et ça.
Y a puis elle, qui est, la elle est disponible, on la trouve au Carré, on la trouve au Sémaphore.
Ouais.
Et c'est vraiment une belle revue. Puis connaître les photographes.
Oui.
Vous avez le temps de faire encore vous-même vos photos?
Oui, mais c'est ça qui me préoccupe aussi actuellement, c'est de trouver un peu de temps pour moi. Mais c'est vrai que j'ai plusieurs projets, dont un qui sera présenté d'ailleurs en septembre, mais on en reparlera, autour d'une histoire nimoise qui s'appelle La jeune fille au chevreau.
Ah oui, la fameuse statue.
La statue, que vous connaissez.
Oui, je connaissais. Et puis, elle était à un moment au Musée des Beaux-Arts.
Alors, il y a une réplique, effectivement.
C'est une histoire assez extraordinaire.
Ouais, et puis, très, très actuelle, dans le sens qu'elle parle encore aussi de ces questions de violences faites aux femmes, mais aussi de violences faites à l'art. Parce que la statue a été intégralement détruite, quand même.
Alors, on voit que vous avez on parle de fil rouge, mais c'est la société, en fait. C'est tous les... transurbanisme, c'est social, c'est culturel, c'est artistique. Et c'est une lutte, mais c'est un travail vraiment pour l'ouverture d'esprit. Hein. C'est...
Exactement, ouais, pour essayer d'éveiller quelques consciences et puis laisser des traces aussi. C'est-à-dire on travaille beaucoup dans un principe de mémoire et de collecte, comme ça a été le cas, par exemple, avec la redécouverte du travail d'Hervé Collignon.
Ah oui. Ah, j'étais absolument émerveillée.
C'est un très, très grand photographe.
Et il est arrivé en...
Qui mériterait lui aussi...
Mais il y a eu des expositions, il y a eu quelques
photos
d'Hervé Collignon.
Il y a eu des expos, nous on a fait beaucoup, il y a eu la ville aussi en a fait. Maintenant, ce qu'il faudrait, je pense, très important, c'est la mise en place d'une archive, comme la ville d'Alès, par exemple, une archive photographique en ligne qui est très, très bien foutue. Donc je pense que la ville de Nîmes doit se doter d'un outil du même type.
Hervé Collignon, il est décédé en 1998, il est arrivé en France à la Deuxième Guerre mondiale.
Dans le Midi, en France, il était des Vosges. Mais
il a immortalisé vraiment toute la vie, en fait.
Toute la modernité nîmoise, des années 50 aux années 70, avec la construction des quartiers périphériques. Il a été aussi le photographe attitré d'un grand architecte nîmois qui s'appelle Joseph Massota, dont on peut encore découvrir certaines œuvres, notamment l'église de Saint-Dominique, Notre-Dame du Suffrage au chemin bas, qui est un joyau de l'architecture brutaliste qui est vraiment magnifique.
C'est autant architecte que photographe.
J'aime beaucoup l'architecture.
Toujours
fasciné. Mon père aussi était très tourné vers ça. Et
en fait, vous arrivez à concilier.
La famille de mon épouse aussi, ils sont tous architectes.
Vous conciliez les deux passions. Et d'ailleurs, se terminent là actuellement les expositions sur les villes, les invisibles. On voit donc. On va parler des nouvelles expositions, puisque vous n'arrêtez jamais. Et pour changer de sujet, mais sans changer de sujet, c'est-à-dire les nouvelles expositions. On va faire une petite pause et vous avez choisi Céleste, Love is Back, l'amour.
Oui.
Hein, l'amour.
Très belle voix et très belle personne.
Love is back. Love is back. Love is back. Glass full, so I did, and I saw you.
Sur Radio Alliance Plus, nous retrouvons Patrice Loubon qui nous a parlé de Necpose, qui nous a présenté en fait l'ensemble du sujet. Et dans cette seconde partie d'émission, vous allez nous parler, Patrice, des expositions qui viennent. Alors, je rappelle que c'est dans plusieurs lieux, hein, c'est ça qui est oui. important. Donc, renseignez-vous bien sur le site. De toute façon, oui. Il va y avoir les affiches.
Oui, oui,
avoir...
oui. Et puis, sur notre site, effectivement, après les réseaux sociaux.
Voilà. Donc, bien se tenir au courant.
Oui.
Alors, on va les prendre un peu par ordre chronologique. La première, elle démarre le 6 mai. C'est oui. au... Alors, vous avez un lieu qui s'appelle un marque. Makerspace,
ouais, oui. C'est un mini Fab Lab qui est à la ZUP Nord, qui a un ancrage historique de Nekpos aussi. On est là-bas depuis très longtemps et on travaille beaucoup avec notamment Humanim et puis d'autres structures du quartier. Mmh. Et voilà, et on a beaucoup fait là-bas. Et puis le lieu est un lieu très accueillant pour les enfants, les jeunes. Donc on est un lieu relais aussi un peu pour eux, de soutien, de
oui, vous accompagnement. Y faites des ateliers.
Voilà,
vous
il y a des ateliers, il y a des équipements, des imprimantes 3D, des imprimantes 2D, un labo argentique. Il y a aussi une salle d'expo, bien sûr.
Donc on ne peut pas y aller librement, il faut demander...
Si, on peut y aller aussi, c'est ouvert assez fréquemment. Alors les horaires sont un peu particuliers parce qu'ils s'adaptent aux horaires de hors scolaire, hors temps scolaire des
ouais.
enfants. C'est le mercredi après-midi, le samedi après-midi, mais aussi en fin de journée.
Ah, d'accord.
Ouais, et après, sur rendez-vous aussi.
Donc, ça vous tient à cœur aussi de valoriser ces quartiers périphériques dits parfois en difficulté.
Ouais.
Votre famille a vécu dans,
voilà.
là-haut.
Et donc oui, ils ont fait partie de ces Nîmois ouvriers qui, à un moment donné, étaient au centre-ville et vivaient dans des conditions très insalubres et très de précarité extrême. Quoi. Et puis, quand ils sont... Voilà, quand on leur a proposé d'habiter à la ZUP, ben, ils ont signé et puis ils ont beaucoup aimé. Quoi.
Oui,
et
oui.
À vrai dire, les appartements étaient très confortables.
Oui,
et...
oui mais c'était une
ouais.
réalisation des rêves. On voit beaucoup de documentaires.
Oui.
Ah, il y a une baignoire, chaque enfant
voilà.
a son,
oui,
sa
oui.
chambre. C'était extraordinaire.
Des appartements traversants,
ouais.
Des balcons, des grandes pièces. Quoi.
Ouais.
Ouais, effectivement,
et puis,
des baignoires.
Ouais, l'environnement,
ça.
Un square.
Voilà, des terrasses sur lesquelles on pouvait jouer. Je me rappelle combien de fois on a joué là, avec mes cousins et tout ça.
Donc c'est triste de voir la dégradation
mais
de ces quartiers.
Ouais, l'abandon par les pouvoirs publics aussi de ces quartiers qui n'ont pas été... D'ailleurs, même le projet initial de Xavier Arsène Henry, l'architecte de la ZUP, c'est des ZUP, c'était quand même autre chose aussi.
Mmh.
Il en manque une bonne partie, là. La mission n'a pas été complètement accomplie. Voilà, alors après, bah, il y a eu un phénomène de petit à petit, d'abandon, une sorte de, on va dire... de la population a évolué, il y a eu des voilà et puis elle a été pas très bien accompagnée, pas très bien traitée sur le terrain, je pense. Et puis là voilà, récemment
on en voit les conséquences,
bah oui voilà récemment.
Ouais.
Puis là
encore dans la journée, on se rend pas trop compte, mais quand on lit tout ce qui se passe les nuits, le soir, c'est assez dramatique.
Ouais.
Alors là, le sujet de cette exposition qui démarre le 6 mai et jusqu'à la fin juillet,
oui.
c'est Balcons d'Alger.
Les Balcons d'Alger, c'est le travail d'un des photographes de Nekpos qui s'appelle Christian Coate et qui a fait un travail sur ces balcons qui sont assez fascinants dans cette belle ville d'Alger qui est très méconnue, mais qui nécessite, je pense, pareil, une redécouverte parce que c'est vrai, c'est un beau patrimoine architectural.
C'est en noir et blanc, c'est en couleur.
Couleur plutôt. Ouais.
Couleur.
Mmh. Mmh.
Pourquoi vous dites que la ville d'Alger est maintenant méconnue? Elle a tellement. Dans l'Algérie,
alors elle est connue,
c'était un phare.
Non, mais c'est vrai que la France et l'Algérie, il y a toujours une histoire qui n'a pas été soldée. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément, la connaissance, quoi. Il y a beaucoup de Français qui vont au Maroc, qui connaissent très bien Rabat, qui est très belle aussi, ou Casa, ou Marrakech, bien sûr.
Mais Alger,
c'est moins une destination touristique.
Ah, pour moi, c'est Camus, vous voyez.
Et oui, mais voilà, mais il y a très peu. Moi, je connais très peu de gens qui vont faire du tourisme en Algérie, à vrai dire.
Hein.
Ouais.
Donc, c'est cette première exposition, donc du 6 mai à la fin juillet.
Mmh.
Ensuite, le 8 mai démarre là à Nekpos, jusqu'au 31 juillet.
Oui.
Une exposition genre, sexe et transgression.
Voilà.
C'est
ouais.
des sujets qui vous tiennent à cœur. J'espère que ça ne sera pas saccagé comme celle de
J'espère aussi que c'est une sorte d'hommage aussi à ce qui s'est fait précédemment et puis de rappel un peu. D'ailleurs, il va y avoir des images de Camille Lévesque-Jégo qui a été dans Benzine Cyprine, qui a été saccagé, son expo. Et du coup, on va retrouver certaines de ces images. C'est une collective, donc il y a 6 psychodraphes principaux, on va dire, et ensuite, allez, une dizaine voilà, qui viennent comme ça un peu accompagner aussi l'ensemble.
Vous faites des visites guidées, vous faites
Oui. Alors oui, on
donc là, pareil, on se renseigne sur le site pour savoir un petit peu. C'est quel public qui vient à Necpo ? C'est plutôt des amateurs de photos
ou
des
d'art, curieux Alors, pas forcément, non. C'est des gens plutôt qui sont quand même soit intéressés par la photographie, l'art et l'architecture.
Mais c'est des vrai étudiants, que, non ?
On peut avoir aussi des étudiants, notamment des Beaux-Arts et puis de l'école de photo d'Arles. Voilà, et puis d'autres qui viennent d'ailleurs, d'autres pays même. On a accueilli des groupes l'année dernière, il y avait des Danois par exemple.
Donc ça vous fait chaud au cœur après ce grand saccage tout de même. Ça n'a pas dû être facile de se remettre en route.
Non, c'est
donc bravo
simple.
À vous et vous faites fort, parce que les villes invisibles, ça termine.
Ouais.
Et là, il y a 3 expositions pour l'été.
Voilà.
Et puis vous êtes déjà en projet pour celle de l'automne.
Oui, sans parler des villes invisibles qui suivent ensuite en octobre justement et qui vont être très diverses aussi.
Alors vous vous associez aussi au thème des expositions je dirais municipale.
Ouais.
Et le thème de l'an dernier, c'était les textiles. Et cette année, c'est l'eau. Et donc, vous êtes présent à l'exposition au musée du Vieux-Nîmes.
Oui.
À partir du 13 mai, ça va jusqu'à l'automne. Là,
c'est ça, le 13 mai, l'inauguration. Et, voilà.
Et là, ça s'appelle Résurgence.
Résurgence, oui.
On a vu déjà l'exposition avec Barbara Rouget au musée des Beaux-Arts, Lumière et Ténèbres. Où c'est Résurgence. Alors, comment vous vous êtes intégré au musée du Vieux-Nîmes?
Bon, je pense que le thème résurgence, ça fait évidemment appel à ces méandres du Gardon et aux résurgences de la rivière qui tout d'un coup disparaît puis réapparaît. Et effectivement, nous, c'est un travail qui date de 2023 qu'on a accompli dans le cadre de la mission Regard sur la ville et qui effectivement réapparaît tout d'un coup.
Comme une résurgence.
Ouais, comme une résurgence, voilà, exactement.
Et comment vous l'intégrez à... Vous avez une salle, vous ne savez pas trop encore.
Alors pour le moment, non, ça, je pense, c'est à la liberté de...
La conservatrice.
De la conservatrice.
Et c'est important pour vous d'associer des photos à un musée de textiles
Oui. C'est important surtout de pouvoir montrer, continuer à montrer le travail qu'on a fait et cette mémoire qu'on a construite collectivement et qui fait partie maintenant de la mémoire collective nîmoise et je dirais que effectivement ça rentre directement dans notre dans nos intentions.
Vos intentions, vos fils rouges, vos sujets d'interrogation, de questionnement, d'inquiétude aussi. Et donc vous participez, en fait, on sent, je le disais tout à l'heure, un ancrage socio-culturel citoyen.
Complètement.
Alors on peut parler peut-être rapidement de l'automne. Quels sont vos projets d'automne?
Alors rapidement...
comme si les trois suffisaient pas, là.
Effectivement, en septembre, on va avoir l'exposition de Erent, qui est un graveur qui est installé à Nîmes, qui est d'origine hollandaise, et qui m'a proposé de mettre en place une expo qu'on a d'ailleurs accompagnée, dont on produit certaines pièces, autour des gueules cassées de la guerre de 14. Alors il y aura des textes aussi de Jean-Pierre Hercourt, qui est un artiste qui déclame, qui est un artiste performeur, et aussi d'un musicien nîmois qui s'appelle Pascal Deleuze, qui est un trompettiste.
Oui, on connaît bien Pascal.
Voilà. Donc ça sera, j'irai dans la grande partie de la galerie, dans le premier niveau, et au deuxième niveau, je présenterai un peu l'état de mes recherches sur une histoire nîmoise qui s'appelle La jeune fille aux chevreaux, et qui me passionne et m'intrigue depuis très longtemps maintenant.
Et on est dans la destruction des œuvres d'art.
Voilà, qui renvoie justement à ce qu'on a vécu, nous, c'est-à-dire une violence faite aux femmes. C'est-à-dire, à l'issue de la guerre, il y a eu des persécutions et des victimes, quoi.
Des
femmes. Plus de 20 000 femmes ont été persécutées, dont une nîmoise qui s'appelait Marcel Battu. Marcel Polge aussi, par son mari, et qui a été capturé, emprisonné, condamné, exécuté, apparemment dans des conditions très, très glauques. Et la statue, parallèlement, dont elle était la modèle, a vécu aussi une histoire de destruction, finalement, qui s'achève en 1970, où la statue est complètement réduite à néant.
En 1970, moi je pensais que ça avait été fait pendant...
Non, voilà, tout le monde pense que c'est effectivement juste à l'issue de la guerre.
Oui, on pense à la destruction de Bernard Lazare,
la statue a vécu une vie, on va dire, malheureusement, aussi en mauvais état, c'est-à-dire qu'elle a été partiellement détruite pendant la guerre, restaurée, puis ensuite, restaurée, puis après redégradée. Et moi, j'ai une photographie qui a été faite par mon grand-père, justement, où on la voit, et où il manque le chevreau, il manque le bras de la jeune fille. Donc voilà, et à partir de... Enfin, c'est en 70 même, où là, elle a été vraiment complètement réduite à néant, quoi.
Donc on revient en fait à ce qu'on a dit au début de ce saccage qui nous a profondément marqué. Ouais. Et on ne peut que réfléchir justement dans un monde de plus en plus violent avec tout ce qui se passe actuellement. Ouais. Et puis comme pour rappeler, il n'y a pas eu de... On ne sait pas qui a saccagé ou tout au moins on ne veut pas le savoir.
C'est une menace invisible aussi. Ça n'a pas été revendiqué. C'est pas l'extrême droite, on va dire.
C'est un acte isolé, mais bon, qui de toute façon est dramatique.
Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est quand même quelqu'un porteur d'une pensée, on va dire, profondément, qui a une aversion profonde des femmes. Donc un masculiniste, on va dire, c'est un courant actuel qui n'est pas très nommé, je dirais qu'il n'y a pas de groupe politique qui se revendique du masculinisme.
Oui, mais ça progresse
de façon
sournoise. Mais
c'est une pensée qui est comme ça, là, qui est très...
Écoute, on va tout de même finir sur une note positive, votre renaissance. Oui. On a appelé l'émission La Renaissance de Nekpoz, tel un phénix.
Voilà.
Donc merci à vous, merci à tous vos collaborateurs.
Merci Sylviane de nous donner cette opportunité.
Et ben, je vous en prie, à très bientôt pour d'autres expositions. Merci Patrice.
Merci beaucoup.